بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, alhamdulillah, nous reprenons ce soir les grands signes, les derniers grands signes avant la destruction de ce dunya. Et vous vous rappelez, on avait revu un petit peu la façon de distinguer les grands signes de Qiyama. On avait vu qu'il y a des signes qui sont envoyés par Allah Azza wa Jal, comme Al-Mahdi, comme Al-Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj et le retour de Isa alayhi salam. Ces grands signes-là, bi'idhnillah, on a eu l'occasion de les voir en détail et de voir la mission de chacun de ces alama, que ce soit des signes positifs ou négatifs, les signes positifs comme Al-Mahdi, les signes positifs également comme Isa alayhi salam, ou les ashrat, les signes qui sont négatifs comme Ad-Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. On a vu que tout ça c'est sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Rabbul Izzah les envoie à la fin des temps pour que ce soit là un signe évident pour l'ensemble de l'humanité, que la promesse d'Allah Azza wa Jal, la promesse qu'Allah avait fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'ensemble des anbiya alayhi salatu wa sallam depuis les premiers prophètes, cette promesse qui est la fin de ce dunya, la fin, la destruction de ce monde suivie de la résurrection, ben cette promesse là elle va se concrétiser. Et les mushrikin Quraysh qui n'arrivaient pas à comprendre le concept de résurrection, de tout ce qui est en rapport avec l'au-delà, ben subhanallah, ces signes, ce sont là la manifestation de la puissance d'Allah Azza wa Jal et la réalisation des prophéties de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il nous avait annoncé. Alors, on ne va pas faire très long ce soir, on va rester dans 25-30 minutes grand maximum. On avait vu la dernière fois que parmi les signes après, là on est dans la catégorie des grands signes, mais après Isa alayhi salam, après que Jésus Isa alayhi salam soit revenu sur terre et qu'il ait mis fin à la tyrannie de Ad-Dajjal, l'antéchrist, et qu'il ait invoqué les musulmans qui étaient vraiment le amir des croyants lors de la venue de Gog et Magog, de Ya'juj et Ma'juj, et que par ses doigts, par ses invocations, Allah Azza wa Jal a envoyé son aide et le peuple de Gog et Magog ont été détruits. On a vu qu'après cette époque, Isa alayhi salam va rester pendant, selon certaines sources, 7 années avec les croyants, et ce seront là des années de baraka, des années de bénédiction. Mais qu'après le décès, cette fois-ci, le véritable décès de Isa alayhi salam, il y aura une dégradation dans la qualité de vie, il y aura une dégradation également dans la présence de iman, de foi, et que peu à peu Allah Azza wa Jal va reprendre les gens qu'il aime. Et jusqu'à ce moment important, ce moment clé où Allah Rabbul Izza envoie ce vent qui vient du Yémen et qui va reprendre l'âme de chaque personne qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans son cœur. Donc après le décès de Isa alayhi salam, il y a une dégradation totale de la situation de la vie de ce dunya, avec certaines populations qui vont revenir vers la période de l'ignorance, de l'jahiliya. Et on verra aujourd'hui que certaines tribus arabes vont même recommencer à adorer les idoles qui étaient adorées avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là une grande preuve de la décadence à la fin des temps. Maintenant, comprenez que dans ces périodes, il est tout à fait normal qu'Allah Azza wa Jal reprenne le Coran, que le Coran ne subsiste pas, ne reste pas dans une communauté où il y a autant de shirk, autant de kufr, et qu'il n'y ait plus personne qui a de son cœur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et le dernier signe qu'on avait vu, c'était il y a 3 semaines ou il y a 1 mois, c'est les 3 engloutissements, les 3 séismes, qu'on pourrait dire séismes, engloutissements, qui auront lieu avant la fin des temps. Et hier, avant-hier encore, on était sous le choc par le tremblement de terre qu'il y a eu au Népal, avec combien de morts? Ça s'approche des 3000 morts. Ah, excusez-moi, j'ai zappé 24 heures, astaghfirullah. Je ne me suis pas connecté sur internet, j'étais à 2800 morts. 10 000, Allahu Akbar. Ajib, 10 000. Et j'écoutais juste les infos cet après-midi, il y a 500 Français qui sont portés disparus, dont on n'a pas de nouvelles, parce qu'en plus du tremblement de terre, il y a eu les avalanches, d'accord, avec les tremblements de terre. Donc je ne sais pas, est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu 10 000 morts dans un séisme? Je pense qu'en Turquie et tout, il y avait des tremblements de terre, c'est important, au Japon, ces 10-20 dernières années. Mais sachez que ce qui aura lieu à la fin des temps, ce sera un autre niveau, ce sera quelque chose de totalement différent. Et on ne parle pas uniquement de zalzala, de zilzal, on ne parle pas uniquement de séisme, de tremblement de terre, parce que la multiplication des tremblements de terre, c'est un petit signe de qiyama. C'est un petit signe de qiyama que cette activité sismique un petit peu emballante à la fin des temps, où il y aura énormément de tremblements de terre. Mais lorsqu'on parle des grands signes, de ces signes qui viennent du fin fond de la terre, ce seront là des tremblements de terre, mais accompagnés également d'engloutissements. C'est comme des glissements de terrain où la terre va s'effondrer. Et un des exemples qu'on avait vu la dernière fois, juste pour récapituler, c'est cette armée qui va se diriger vers la Kaaba et dans un endroit qui s'appelle Al-Bayda. C'est un désert de le Hijaz. Et à cet endroit, l'intégralité de l'armée va être engloutie. Il n'y aura plus trace d'eux. Donc ça fait partie des grands signes à la fin des temps. Ce qu'on va voir ce soir, Inch'Allah, on va dire très rapidement, parce que ce signe a été expliqué de différentes façons, scientifiques, religieux, mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'étaler énormément. On a besoin juste de voir le signe, les conséquences, et que ce signe est un moment clé également. C'est lorsque le soleil va se lever à l'ouest. En introduction, l'auteur a dit que c'est la hikmah d'Allah. Allah Rabbul Izzah a organisé la nature de cette façon, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est bien ça, hein? Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest, et cela depuis le début de la vie sur terre. Depuis le début, c'est le même cycle. Et donc l'homme est habitué à ce cycle, hein, qu'on soit habitant des campagnes, des villes, qu'on a l'habitude d'observer le ciel ou ne pas observer le ciel, ben, en général on voit que le soleil se lève pour Saint-Denis, c'est du côté de Barachois. Je dis n'importe quoi là, non, hein? Du côté de l'est, c'est... Ok, pardon, excusez-moi. Non, géographie, ça ne va pas du tout. Je m'excuse. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Barachois, c'est le nord. Hein? D'accord. Ok, j'ai essayé. Bon, mais vous connaissiez. Côté Sainte-Marie, d'accord. Bon, c'est, autrement, le qiyama aurait lieu tous les jours pour moi. Et en tout cas, il se couche à l'ouest. C'est-à-dire, on a l'habitude de voir ce cycle de cette façon. Et Allah Azza wa Jalla a décidé qu'à la fin des temps, une seule fois, le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est. Et après cet événement qui va marquer l'esprit des gens et qui sera un rappel pour ceux qui ont la foi et qui vont reconnaître la prophétie, ce que le prophète a annoncé, après cela, le soleil va reprendre un cycle normal. C'est pas que le soleil se lèvera constamment à l'ouest à la fin des temps, non, ce sera une seule fois. Et cette fois-là, ce sera un événement clé. Pourquoi c'est un événement clé? Et là, on arrive droit au but et on pourrait résumer ce signe très rapidement. À partir de ce moment, le Tawbah n'est plus accepté. Très souvent, on parle du Tawbah, de l'importance de demander Tawbah à Allah Azza wa Jal, et qu'il ne faut jamais désespérer de la clémence d'Allah, les conditions pour qu'Allah accepte le Tawbah. Très souvent, on parle de ça, mais on sait également que le Tawbah est accepté jusqu'à deux limites. La première limite, elle est plus propre à chaque individu, c'est al-gharghara, l'agonie. Lorsqu'une personne est le sakara, plus connu sous le terme sakarat, lorsque quelqu'un est dans le sakarat, le mot de l'agonie dans les derniers instants de sa vie, la personne ne peut plus demander pardon à Allah Azza wa Jal, parce que la personne a déjà un pied dans la tombe. Et la personne voit déjà des signes que l'être humain, que le monde des ins, pas l'être humain, que le monde des vivants ne peut pas percevoir. À partir du moment où on perçoit le raib, on perçoit l'invisible, ben, ce iman, ce tawbah n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un tawbah, ce n'est pas un retour vers Allah qui sera basé sur l'invisible, sur une conviction, sur une confiance en Allah, sur un amour et une crainte d'Allah Azza wa Jal qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas. Ça, c'est mizatul iman. Ça, c'est la spécificité de la foi. Alladhina yu'minuna bil ghaib, c'est qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on n'a aucune preuve, mais qu'on s'y accroche. Et ça, on le vit au quotidien. lorsqu'il s'agit de s'éloigner de l'adultère, lorsqu'il s'agit de ne pas emprunter de l'argent haram avec les banques, lorsqu'il s'agit ainsi de suite de s'éloigner de certains péchés, lorsqu'il s'agit de se réveiller pour la prière de la nuit, et ainsi de suite, alors qu'on ne voit pas de résultats palpables sur le plan monétaire, on ne voit pas qu'on devient plus riche, on ne voit pas qu'on a plus de bénédictions directement, on ne le voit pas, ces signes, mais on y croit fermement parce qu'on a la foi, ben ça c'est vraiment les qualités de iman. Donc c'est au quotidien qu'on est mis à l'épreuve entre notre iman bil-ghaib et ce qui est palpable, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Celui qui est à la recherche du plaisir immédiat, ben c'est quelqu'un qui va mettre de côté la foi en l'invisible. Celui qui décide, ce jeune qui se décide que ben voilà, samedi je sors avec mes amis, je vais en boîte, je vais boire, je vais danser, je vais faire l'adultère, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui est à la recherche du plaisir de maladhat, du plaisir immédiat. Et ça, c'est le grand échec. C'est un grand échec, pas uniquement parce qu'il accomplit ce péché, mais c'est parce que cette personne, à un moment donné, a eu le choix entre le plaisir immédiat et la recherche. La recherche du contentement d'Allah Azza wa Jal et la foi bil wa'idi wal wa'id, le fait de croire aux promesses d'Allah et le fait de croire aux mises en garde de notre Seigneur. Promesses d'Allah qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais de ce monde, mises en garde d'Allah Azza wa Jal qu'on ne voit pas et qu'on ne verra non plus jamais de ce monde. Ce sera visible uniquement dans le monde de l'au-delà. Mais ce croyant qui s'est freiné ses passions, ses pulsions, parce qu'il va suivre un ordre divin qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, mais qu'il y croit dur, dur comme fer, mashallah, parce qu'il y a iman bil-ghaib, ça c'est vraiment une action qui est aimée, qui est appréciée par Allah Azza wa Jal. Et donc la personne qui est dans l'agonie, qui est dans le sakarat, cette personne voit déjà des choses que nous ne voyons pas, c'est pour cela que son tawbah n'est plus accepté à ce moment. Également, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, c'est un signe qui annonce de façon imminente le qiyama, la destruction de ce dunya. Et donc à partir de ce moment-là, les gens vont comprendre les réalités, vont comprendre la vérité, et là le tawbah n'est plus accepté par Allah Azza wa Jal. Alors dans le Coran, Allah Rabbul Izzah cite dans un verset, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Je ne sais pas c'est quel verset, c'est dans quelle sourate, je ne l'ai pas. Mais يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ, le jour où viendra ou surviendra certains signes de ton Seigneur. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu commente ce verset, il fait donc le tafsir, il dit أَيْ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Ce signe qui est annoncé de ce sourate, c'est lorsque le soleil va se lever à l'ouest. Hadith rapporté par At-Tirmidhi et par Imam Ahmed. Également hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, de lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit la taqoum as-sa'a, le qiyama n'aura pas lieu hatta tatlu' ash-shams min maghribiha, tant que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest. Fa idha tala'at, et lorsqu'il se lèvera donc à l'ouest, wa ra'aha an-nas, et que les gens le verront, amanu ajma'un, tout le monde voudra attester qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah. Toutes les personnes qui vont voir le soleil se lever à l'ouest et le soleil qui se lève à l'ouest, mes chers frères, comprenons que ce sera visible pas uniquement dans la péninsule arabe, mais sur toute la terre, avec le décalage de 8 heures, de 12 heures, mais ce soleil qui va prendre l'est et à droite très souvent. Hein. Donc le soleil qui fait comme ça, oui, mais quand il va passer de l'autre sens, qu'il va faire le tour de l'autre sens, toutes les personnes qui, subhanallah, ils voient, quel que soit le décalage horaire, ils vont le voir. Et donc, فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ. Ils vont, je suis très gêné parce que j'ai un spécialiste des sciences à ma gauche et qui me complexe énormément quand il voit que j'ai du mal à me situer entre l'Est et l'Ouest. Donc, فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ, lorsque le soleil se lèvera à l'Ouest et que les gens le verront, آمَنُوا أَجْمَعُونَ, ils vont tous avoir la foi, mais فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Ça rejoint un verset du Coran. Mais à ce moment-là, la foi n'aura plus aucun intérêt pour celui, en ce sens, hein, pour celui qui n'avait pas déjà iman ou qui n'avait pas déjà commencé à accomplir de bonnes actions. Hadith rapporté par, c'est costaud ça, akhrajahu as-sitta, c'est-à-dire les six grands narrateurs du hadith, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud et j'en oublie, At-Tirmidhi, ils l'ont tous rapporté, c'est un hadith hyper costaud. Non, illa at-Tirmidhi, zut. Akhrajahu as-sitta illa at-Tirmidhi. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai oublié le nom Tirmidhi à la fin. Donc, hadith authentique rapporté par cinq narrateurs de hadith. Donc, un signe qui aura lieu à la fin des temps. Maintenant, si on fait une analyse scientifique, est-ce que c'est possible ou non? Moi, je pense que l'analyse scientifique ne nous intéresse pas. Il y a beaucoup de savants qui ont essayé de prouver que scientifiquement, effectivement, ils disent que c'est possible. J'ai lu un article dernièrement là-dessus, je n'ai pas trop compris, en fait j'ai rien compris, mais ils expliquent que quand on parle d'inversement des pôles et ainsi de suite, qu'il est possible que le soleil subisse, que le cône du soleil subisse un événement, je ne sais pas de quelle façon, et qu'il se lève à l'ouest un jour, Allahu a'lam, mais de toute façon que les scientifiques le prouvent, l'affirment, ou que les scientifiques disent que c'est quelque chose d'impossible sur le plan scientifique, pour nous ça ne change strictement rien. Parce que justement, si on a besoin du raisonnement scientifique pour croire ou ne pas croire, c'est là qu'on sort du iman bil ghaib. Si on a besoin d'un raisonnement, d'un appui scientifique pour croire ou ne pas croire, c'est là qu'on commet l'erreur et on sort de la relation de l'invisible qui nous unit à Allah Azza wa Jal. Alors, quel que soit l'avis de ces hommes de science, nous avons iman, nous avons une conviction là-dessus parce que les versets le prouvent et les hadiths, les textes prophétiques le prouvent. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim, Ahmad, il y en a d'autres de moins connus, « Badiru bil a'mali sitta » Accomplissez le maximum de bonnes actions. Empressez-vous d'accomplir aux musulmans de bonnes actions avant les signes suivants. Et parmi les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, le premier de ces signes c'est « Tulu' al-shamsi min maghribiha ». Sachant qu'après cet événement, ben, la foi n'a plus d'importance, n'a plus d'intérêt et le tawba non plus n'apportera strictement rien. Hada. Le hadith également de le narrateur de Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam explique la prosternation du soleil. Et ce genre de hadith là, je pense que il est mieux, on peut le dire en cercle privé, mais dans une prêche plus ouverte, je suis d'avis qu'il y a des hadiths parfois qui dépassent tellement l'entendement et que je crains que ça mette en péril la foi des gens. Quand on parle de la prosternation du soleil, vous allez dire ça à des gens qui ne viennent pas régulièrement à la mosquée, qui n'ont pas une grande relation avec les textes, avec le Coran, qui n'ont pas compris cette subtilité qu'il y a à travers les versets du Coran et le côté humain de notre approche des textes coraniques et prophétiques et notre compréhension qui est vraiment infime par rapport au mourad, par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre dans les deux révélations. Donc une personne qui n'a pas une foi solide risque de mal interprété ou même de dire que astaghfirullah, que ce sont là des histoires, c'est pas possible. Comment on peut parler du soleil qui se prosterne, hein, comment on appelle le soleil, hein, qui ne fait que pivoter, que tourner, on peut pas parler de prosternation. Mais vous savez, dans un autre verset, Allah Rabbul Izza dit, ce verset où on parle de toute créature qui fait le dhikr, wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Le début du verset est correct. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ. Que chaque créature, chaque chose fait le tasbih d'Allah Azza wa Jal. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas le tasbih. C'est-à-dire que parfois vous voyez des animaux, ils ont une façon, ça peut être des pigeons, ça peut être quelle que soit la créature d'Allah, ce sont des makhlouqs, des créatures, des makhlouqats d'Allah Azza wa Jal. Ils vouent un culte à Allah Rabbul Izza d'une façon qu'Allah leur a enseigné. Il y en a un verset qui était encore plus fort. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. C'est ce que je recherchais. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. On parle de salat et de tasbih. Que toutes les créatures d'Allah, ils ont appris, ils savent. On va dire que c'est génétique. Ils savent comment faire les louanges d'Allah et comment vouer le culte à Allah Azza wa Jal. Mais nous, êtres humains, nous ne comprenons pas. Alors donc, ce soleil que nous ne percevons pas, nous savons juste qu'il tourne de cette façon. On doit avoir cette conviction que ce soleil se prosterne devant Allah Azza wa Jal et qu'il demande l'autorisation à Allah Azza wa Jal pour poursuivre son cycle. Mais le jour où Allah prend la décision que le soleil se lève à l'ouest, il ne recevra pas l'autorisation de poursuivre le cycle de cette façon, mais d'entamer le cycle contraint, et cela une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Et cela durera un seul jour, une seule fois, un seul lever couché du soleil. Innama yakunu marratan wahida, une seule fois, fi yawmin wahid, un seul jour. Hada. Donc on a dit on va passer les détails. Après il y a pas mal de hadiths qui reviennent sur, sur l'importance de demander pardon avant ce moment. Quand même important, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui rapporte le hadith du Prophète sallam, inna Allah yabsutu yadahu bil-layl yatuba musi'un nahar. Hadith est connu qu'Allah azza wa jall, c'est une métaphore, tend sa main bil-layl le soir afin que les pécheurs du matin demandent pardon à Allah azza wa jall, et ainsi pour le soir afin ainsi que le matin afin que les pécheurs du soir demandent pardon à Allah azza wa jall jusqu'à ce que le soleil se lèvera à l'ouest, c'est-à-dire à ce moment plus de tauba soit acceptée par Allah Azza wa Jal. Hadith Ibn Abbas, vous savez, il y a tellement de hadiths qui vont dans ce sens, c'est pour ça qu'il faut le citer, parce que le tauba est un point tellement important dans notre religion, d'accord, et que lorsque le tauba, la porte, parce qu'il y a une porte de tauba, lorsque cette porte est fermée, c'est un événement crucial, parce que la générosité d'Allah Azza wa Jal, la clémence d'Allah, elle est sans limite. Mais là, sa clémence, sa générosité, son pardon, ben, on va dire que son pardon va s'arrêter à ce moment-là. Donc là, il n'y a plus de tauba. D'où l'importance des hadiths qui vont dans ce sens. Hadith d'Ibn Abbas, donc, radiallahu anhu, qui dit « Ya ibadallah, toubou illallah, ô serviteur d'Allah, demandez abondamment pardon à votre Seigneur. Fa'innakum touchakoun antara wa shams min al-maghrib. Viendra un jour où vous verrez le soleil se lever à l'ouest. Fa'idha fa'alad dhalik, lorsque cela se produira, hubisati tauba, le tauba sera suspendu. Wa touwiyal amal. Wa khutimal iman. La foi sera, on va dire, sera arrêté. Donc c'est comme un khatm, c'est comme un sceau. Donc ceux qui ont la foi, ils gardent la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, ils ne peuvent plus entrer dans le din. Wa tawiya al-amal. C'est comme si que les actions seront figées à ce moment. Il n'y a plus de bonne action possible, il n'y a plus rien à rajouter. Hada. Donc après, il y a pas mal de détails qui expliquent que celui qui avait la foi et qui continue à accomplir les mêmes bonnes actions, ces actions continueront à être acceptées par Allah Azza wa Jal, mais on ne pourra même pas rajouter plus de bonnes actions. C'est-à-dire que c'est un signe qui va réveiller la foi. Mais le quota d'action que tu faisais avant, c'est ce quota d'action qui est accepté et rien de plus. Et bien sûr, le contraire, celui qui ne faisait pas de bonnes actions, ben, il est trop tard pour commencer à accomplir de bonnes actions. Même si la personne commence à prier à ce moment, ses prières ne seront pas acceptées. Et bien sûr, celui qui n'avait pas la foi, comme on l'avait dit, plus on a répété, ne pourra pas entrer de le din hada. Et donc, en conclusion, hein, celui qui écrit ce livre, il fait un parallèle entre les personnes qui vont voir le soleil se lever à l'ouest et Pharaon qui a vu le signe d'Allah Azza wa Jal avant de mourir. Un verset de Surat Ghafir, « Falamma ra'au ba'sana, qalu amanna billahi wahdah, وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Non, c'est pas forcément l'histoire de Pharaon, c'est d'une manière générale. Lorsque les gens, ils voient les signes d'Allah, et c'est là qu'ils essaient d'apporter la foi, à ce moment, c'est trop tard. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Leur foi ne leur est d'aucune utilité lorsqu'ils voient donc les signes d'Allah, la punition d'Allah qui descend réellement. Et nous, on a fait le parallèle avec Pharaon. Lorsque Pharaon, donc il était en train de périr, il était en train de se noyer, et c'est là qu'il a dit le verset, c'est quoi encore? Je ne me souviens plus, mais la reproche qui est faite à Pharaon à ce moment, c'est al-ana wa qad asayta, uniquement, c'est que maintenant, alors que avant tu persévérais dans le péché, dans la désobéissance. Donc c'est un signe probant, à partir de ce moment, il n'est plus possible donc de revenir vers Allah Azza wa Jal. Maintenant, combien de temps il va rester à partir de cet événement jusqu'à la destruction de ce dunya? Hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Il dit que وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا 20 وَمِئَةَ سَنَةً. C'est-à-dire, après ce signe, il ne restera plus que les kuffars de ce dunya. Après ce signe, il ne restera plus que les mécréants. Et les gens vont vivre environ 120 années. Environ un siècle, un peu plus d'un siècle. Et après, il y aura la destruction de ce dunya. Mais les jours vont passer extrêmement vite. Et pendant cette période, comme on l'a dit en introduction, certaines personnes vont retourner vers l'ignorance, vers l'idolâtrie. Hadith de Abi Umama radiyallahu anhu, de lequel le Prophète dit: la taqoumu sa'a hatta ta'bud al-arabu ما كان يعبد آباؤها 20 و 100 سنة. Donc ça rejoint notre hadith qui met en avant ce nombre d'années, 120 années, où les Arabes vont retourner vers l'adoration, vers les mêmes rites, même rituels que leurs ancêtres pendant 120 ans. Ça, c'est après le retour de Isa alayhi salam et bien après Dajjal. Donc c'est exactement cette époque. On pourrait dire que c'est après que le soleil se lève à l'ouest. Et Cheikh Al-Alifi rahimahullah, il avait en parallèle également cité un hadith qui explique bien, où les métaphores sont bien traduites. On cherche une bonne traduction. Et ce livre est bien traduit, mashallah, où il explique comment les gens seront surpris, parce qu'il ne restera que les mouchriquines, que les koufars, que les mécréants, comment est-ce qu'ils seront surpris de la destruction de Qiyam al-Sa'a. On l'a en français. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne surviendra pas tant que le soleil ne se sera pas levé de son couchant. Plus simple, lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront tous. Mais cela ne leur sera d'aucune utilité, étant donné qu'ils n'auront pas cru avant ou qu'ils n'auront acquis aucune bonne action du fait de leur foi avant. Et l'heure surviendra, et c'est là qu'on voit comment est-ce que les événements vont s'enchaîner jusqu'au Qiyama, jusqu'à la destruction de ce dunya. Et l'heure surviendra si soudainement que deux hommes en train d'étendre un tissu n'auront même pas le temps de conclure leur vente et de replier ce tissu. Deux personnes qui sont engagées dans une négociation pour vendre du tissu, ils sont en train d'ouvrir à regarder, ils n'auront même pas le temps de conclure que le Qiyama aura lieu subitement. Autre exemple, l'heure surviendra alors que l'homme n'aura pas eu le temps de profiter de la traite de sa chamelle, ni de finir de préparer son auge pour qu'elle s'y abreuve. Donc un homme qui va préparer un endroit comme un endroit pour mettre de l'eau pour sa chamelle, et le temps qu'il le prépare, la chamelle n'a pas le temps de boire que le Qiyama aura lieu, l'heure sera si subite que celui qui lèvera sa main pour avaler sa bouchée n'en aura même pas le temps. Trois exemples, trois métaphores qui nous montrent que le temps va passer extrêmement vite après ce signe et que les gens seront surpris par la venue du Qiyama, ce qui prouve également que les gens seront dans l'insouciance totale. C'est pas que des gens, ils ont vu le soleil se lever à l'ouest et qu'ils ont des remords maintenant, qu'ils essaient de retourner vers Allah, ils voient que les croyants sont morts avec ce vent, cette brise qui les a repris, ils essaient de trouver une solution pour retourner vers Dieu. Aucunement. C'est des gens qui vont rester perdurés continuellement dans la perdition et vont même, leur cas va même s'empirer, ils vont retourner certains vers l'adoration des idoles. Et donc, quand la destruction de ce dunya aura lieu, ce sera vraiment sur Sherar et Nain, sur les pires des gens, et ils seront surpris. Cheikh Alifi, rahimahullah, il a soulevé un point très intéressant qu'on avait un petit peu abordé. Il dit, comment se fait-il que dans ce hadith, le Prophète nous annonce que les premiers grands signes seront le lever du soleil, son couchant, et l'apparition de Adab, s'en fera la prochaine fois, Inch'Allah, c'est un grand sujet quand même, alors que en même temps, on trouve dans d'autres hadiths qu'il est question de l'antéchrist de Mehdi. Dans certains hadiths, on parle que parmi les grands signes de Qiyama, ce sera Mehdi et Dajjal. Et dans ce hadith, on dit que parmi les grands signes, ce sera le soleil qui se lèvera à l'ouest. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux hadiths? Il dit non, qu'il y a deux catégories de grands signes. Comme on l'a dit, on peut revoir un peu la classification. Il dit que la venue de Dajjal sera bien le premier des signes majeurs de la fin des temps qui va déclencher de profonds bouleversements sur la majeure partie de la terre. Il dit que alors que quand on parle du lever du soleil de son couchant, ce sera le premier signe majeur annonçant le déclenchement de profonds changements de le monde supérieur. Bon, c'est un peu philosophique, hein, mais il dit que Dajjal et Mahdi, c'est des choses qui se passent ici, mais quand on parle du soleil, c'est au niveau du ciel, c'est d'un autre niveau. On va dire que c'est une interprétation, mais nous, on va plutôt vers un avis un peu plus simple, hein, que ce sont des signes qui font suite à l'alternance entre iman et kufr, possibilité de revenir vers Allah ou de ne pas revenir vers Allah, alors que ces signes-là, à la fin, après le départ de Isa alayhi salam, on va dire que c'est les derniers événements juste avant le Qiyam al-Sa'a, avant la destruction de ce dunya. On va s'arrêter là pour ce soir. Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir Ad-Dab, cette bête qui va sortir, selon certaines sources de la péninsule arabe, d'autres qui le situent même au mont As-Safa, au mont Safa, donc à Makkatul Mukarramah, dans le Haram. Et on va voir pourquoi est-ce que cette bête va sortir à la fin des temps. On va voir ce qu'il y a une description authentique dans les hadiths et quel sera le travail, quelle sera la mission de Ad-Dab. Et il nous restera enfin le feu qui aura lieu à la fin des temps. Et puis on essaiera de voir si on peut avant Ramadan, même si ça ne fait pas partie des grands signes de Qiyama, comment est-ce que le dunya sera détruit par Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah Rabbul Izzah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de retenir l'essentiel, et qu'Allah donne la possibilité de demander tawba, de demander pardon, et que chaque nuit nous est profitable dès maintenant. On a fait le rappel dans d'autres masajid, on est dans le mois de Rajab, hein, et on doit essayer de faire le maximum d'efforts pour développer nos a'mal saliha, nos bonnes actions, et de diminuer nos péchés durant ce mois de Rajab. Malheureusement, quand on parle de Rajab, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit immédiatement? Vous ne savez pas trop ça. 27e Mi'raj, le 27e Rajab. Quand on parle de Rajab, c'est que ah, Rajab, ça va, le 27e, je viens à la masjid, je m'habille bien et c'est grande nuit, ça va être chaud. Et on va écouter, il y aura 300 personnes, Mouana fait un grand discours de 1h30. Quoique, hein, on est limité à 1h, bon, sauf quand c'est certains intervenants qui viennent de l'étranger, ils peuvent faire 2h30. Mais bon, on va dire que ceux qui viennent de l'étranger sont toujours plus intéressants, c'est normal. Donc voilà, dans l'inconscience populaire, c'est ça, quand on parle de Rajab, c'est synonyme de 27e et de Mi'raj, de grande nuit, on va raconter l'histoire de Mi'raj et qu'on aura le doua après le programme de grande nuit et nos péchés seront pardonnés. Il n'a jamais été dit, hein, jamais été dit que le doua, après, le concept même de programme de 27e, vous savez que ça n'existe pas. On va dire que c'est culturel, on est... À une époque, certaines personnes ont vu le détachement, le désintéressement des jeunes à la religion lorsqu'il y avait une perte d'identité. Donc, ils ont essayé de rattacher les gens à ces événements clés de l'histoire de l'islam. Mais après, malheureusement, c'est devenu un rituel où 27e, c'est synonyme de grande nuit. Alors que ce n'est pas une grande nuit, aucunement. Il n'y a aucune vertu 27e, d'accord? Qu'un Sha'aban encore, il y a des hadiths hassan sur le fait que le tawbah est accepté. Mais là, c'est totalement différent. Où est-ce qu'on va en venir? C'est que l'objectif, hein, quand entre autres il y a le doua qu'on demande, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban, entre autres on doit se préparer donc spirituellement au Ramadan dès maintenant, à partir du mois de Rajab. On doit faire en sorte, les savants disent, de développer, d'essayer de travailler dès maintenant les actions que le croyant accomplit durant le mois de Ramadan, les actions qui sont propres, qui sont spécifiques au mois de Ramadan, entre autres la prière de la nuit, les douas, les doigts, le jeûne. On essaie de travailler notre jeûne, notre somme. On essaie de jeûner le lundi, le jeudi, le 13, le 14, le 15 du mois de Rajab, le 13, 14, 15 du mois de Sha'ban. Certains même sont d'avis qu'il serait bien de jeûner l'intégralité du mois de Sha'ban, à l'exception de quelques jours. On essaie de travailler également la sadaqa. On commence à donner un petit peu la sadaqa, un peu en plus. On essaie de travailler notre lecture du Coran, de se reconnecter au Coran. L'objectif, c'est que lorsque le premier Ramadan arrive et que nous sommes déjà habitués, bi'ivnillah, à accomplir ses bonnes actions, ben, alhamdoulilah, lorsque le flux spirituel, cette rahma d'Allah qui va descendre sur la umma lors de la première nuit du Ramadan, ben, inshallah, nous allons en bénéficier et nous aurons déjà l'élan des bonnes actions. Si on attend le premier Ramadan pour se réveiller à 3h30 du matin, on aura énormément de difficultés. Le temps de s'adapter, de comprendre qu'il faut se réveiller à telle heure, faire 6, 9 ou 12 unités de prière et demander doua pendant longtemps, lire le Coran, ça va être extrêmement difficile et nous risquons de perdre beaucoup de jours, hein, pour essayer de s'habituer au rythme de Ramadan. Il est extrêmement important d'essayer de travailler ses a'mal, ses actions durant le mois de Rajab, et ce sera profitable pour nous, mashallah, si on peut consacrer 2 mois de ibadah avant le mois de Ramadan. Ça nous fait au moins 3 mois de ferveur de l'année, ce qui est extrêmement profitable. Et lorsqu'on parle d'accomplissement de bonnes actions, de prendre les bonnes habitudes, bien sûr, cela va de pair avec l'éloignement des péchés. On essaie d'arrêter les haram, on essaie de contrôler ce qu'on faisait de mal jusqu'à maintenant, le regard, les oreilles, on essaie de contrôler nos membres et de ne pas répéter les mêmes péchés. Parce que vous savez que les péchés, ça durcit le cœur, ça fait des points noirs, ça nous empêche de comprendre le Coran, ça nous empêche de bénéficier de la rahma, de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si j'ai fait un travail spirituel pendant Rajab et Sha'ban, en demandant tawbah à Allah, en arrêtant les péchés, c'est-à-dire que je prépare mon cœur. Spirituellement, mon cœur, il est prêt. C'est comme si que les capteurs, les récepteurs sont là. Lorsque la rahma d'Allah, elle descend durant ce mois, on va en profiter et vraiment, on va vivre un Ramadan exceptionnel. Donc, Inch'Allah, on fait tous l'intention de travailler ces différentes a'mal et d'arrêter au fur et à mesure les péchés en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous tawfiq de faire ces bonnes œuvres et de nous accepter, de nous donner la force également de rester éloignés des péchés au tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Le concours Hajj commence inshallah. On a reçu les formulaires. Ce vendredi on commencera à distribuer et on aura un mois inshallah pour remplir le formulaire. Qu'Allah nous accepte.